France Inter.
Fermez les yeux et imaginez une pente vertigineuse, une paroi blanche et un chrono qui part. Il vous faut arriver en bas le plus vite possible, sans faute de car. 3 km en moins de 2 minutes, il faut être fou, me direz-vous. Notre invité l'est un peu, une folie douce qu'il a appris à dompter, Cyprien Sarrazin, déchausse dans le studio d'Inter. Avec lui, on va tenter de se mettre dans la peau d'un descendeur, dans la tête d'un champion qui a pris le temps d'éclore, et dans le cœur d'un skieur dont la planète surchauffe. La tête et le corps, ça parle aussi à notre reporter judoka qui vise toujours les Jeux et qui se remotive, on l'entendra. Nous sommes le dimanche 31 mars. Pour chercher la neige, venez avec nous, on prend de la hauteur.
L'esprit sport. Clara Lecoq-Réal sur France Inter.
20 janvier 2024, dans le Tyrol autrichien, Kitzbühel, en haut de la Streif.
Autour de Cyprien Sarrazin, de rentrer un peu plus dans la légende de Kitzbühel, vainqueur hier de la première descente. C'est parti pour Cyprien Sarrazin.
Fais pas le fou, Cyp. Allez, on le voit, il y a des fautes aujourd'hui. C'est pas grave si on fait des fautes.
Petite faute de quart là.
Allez. Il est dans le même temps qu'Odermatt en haut.
Oh, elle est belle celle-là encore.
Elle est dingue, elle est encore mieux qu'hier.
Mais c'est fou.
C'est un modèle 64 centièmes et 114 km/h.
Il peut assommer la course.
Il a fait tellement de fautes, Odermatt. C'était sûr que ça pouvait aller plus vite. Et Cyp le monte là, 6 dixièmes.
Montrez-le dans toutes les écoles de ski alpin ce qu'il est en train de faire, Cyprien Sarrazin.
Ça va faire plus d'une seconde.
Une seconde.
Attention, l'immense saut.
La course n'est pas finie, ouais, faut faire attention.
Il se ferme un petit peu l'angle, mais...
Oh là là, 91 centièmes sur Marco Odermatt. Démonstration du génie, Cyprien Sarrazin.
Bonjour Cyprien Sarrazin.
Bonjour.
C'était votre deuxième victoire en deux jours à Kitzbühel sur cette piste, aussi mythique qu'effrayante. Vous succédiez alors à Luc Alphand, qui avait fait pareil 29 ans plus tôt, vous étiez à peine né à cette époque. À quoi vous pensiez sur cette pente que certains nomment l'enfer ?
J'ai essayé de penser à rien, juste à skier, à être dans le moment présent. On n'a pas le temps pour penser. Et ce jour-là, sur cette descente-là, j'ai réussi. Ça fait 29 ans que je travaille pour être concentré pendant 2 minutes.
Alors, ça passe par quoi ? Visualiser la course avant de la faire. Vous la connaissez par cœur ?
Oui, je pourrais vous redire chaque moment maintenant.
C'est des pentes à plus de 85%,
ouais,
des sauts sur 70 mètres.
70 quand même pas, ouais. Non, c'était du 50, 40, ouais. Mais c'est des vitesses qui vont jusqu'à 145 sur de la glace vive. Enfin, c'est à la reconnaissance, on a du mal à tenir debout nous-mêmes. Il faut aller vite pour que nos quarts puissent s'ancrer dans la glace et qu'on puisse tenir debout. Donc faut se rendre compte de tout ça et... C'est assez dur de le retranscrire, mais
parce que
comment on se prépare pour cette course ?
Beaucoup de skieurs disent avoir les jambes qui tremblent en haut, être à deux doigts d'abandonner. Quel est le déclic pour que vous puissiez partir et faire une course comme celle-ci ?
Il est mental, le déclic, il est mental. Ouais. Moi, j'ai mis énormément d'implication et d'énergie dans ce travail mental cette saison. Et c'est ce qui m'a amené à augmenter mon niveau. Mais après, derrière, il y a énormément aussi de travail. Ça fait 29 ans que je fais du ski. Ça fait que 2 ans que je fais de la descente, mais avant, je m'étais entraîné en géant, et avec beaucoup de blessures, avec des doutes. Et là, dernièrement, avant Kitzbühel, avant cette saison, j'ai trouvé un truc mental qui m'a fait me libérer pour profiter de cette descente pleinement. Et les émotions que j'ai vécues en parlant de Kitzbühel, parce que la deuxième descente, ça reste le clou du spectacle.
La plus belle.
La plus belle, c'était juste incroyable, mais...
Un travail mental, ça passe par quoi, qu'on comprenne bien ? Parce que effectivement, vous avez 29 ans, on vous découvre, en tout cas le grand public vous découvre cette année, vous avez mis du temps à éclore, vous avez mis du temps, vous l'avez dit, à vous trouver sur la descente. Quel est le travail que vous avez effectué ?
Je fais un travail psy, avec une psychologue, ouais. et ensuite avec une préparatrice mentale qui a plusieurs casquettes. Le travail des deux combinés, pour moi, a fonctionné.
Elles vous ont dit quoi ? Être bien dans ses baskets à la ville pour l'être sur les skis ?
C'est ça.
Ouais, c'est le déclic.
C'est ça, et c'est en fait, on me l'a dit, ça fait des années qu'on me le dit. Tant que ça venait pas de moi, ça marchait pas. Et là, c'est venu de moi-même l'année dernière, après une blessure au dos avant le championnat du monde en France, je devais participer à ces championnats du monde. J'avais des bonnes ambitions. Je me suis blessé 3 jours avant. Et j'ai regardé les mondiaux dans mon canapé. Et là, je me suis dit non, j'ai plus envie.
C'est pas possible.
J'en ai trop eu des blessures. J'ai passé trop de temps en dehors des pistes. Et là, ce que je me suis dit, c'est ok, j'ai plus envie de revivre ces mauvais moments. Physiquement, ça va. Techniquement, ça va. Et voilà, je peux encore progresser, mais il y a une petite marge. Mais mentalement, c'est là où il manquait.
Et vous avez été blessé cette saison, en février, en Norvège. Est-ce que vous avez l'impression que ce travail sur vous vous a servi à ce moment-là? Vous êtes revenu 3 semaines après, vous avez été 4e le week-end dernier en Autriche.
Ouais, ça m'a servi. J'ai été très bien sur les skis cette saison, je me suis libéré, j'ai de nouveau été moi-même dans ma vie. Puis après, je me suis libéré sur les skis aussi, ça a été un ensemble de choses avec beaucoup plus de discussions avec tout mon staff, tous les techniciens et tout ça. Mais quand je me suis blessé, je suis retombé un peu dans un bad mood.
Ouais.
Parce qu'après avoir vécu des émotions incroyables comme ça, j'ai quelque chose qui s'est coupé.
C'est redescendu d'un coup.
C'est redescendu d'un coup et tout le travail, voilà. Je me suis dit, mince, pourquoi j'ai plus ce power? Mais en fait, j'avais besoin de couper complètement, de vraiment me mettre en mode off pour me soigner. Et derrière, retrouver l'envie d'y retourner. Et ça, voilà, je me suis servi de mes coachs et de mes proches pour repartir. Et tout seul, si on m'avait demandé, même quand physiquement je me suis senti prêt, j'avais même plus envie d'y aller. Au final, le fait de repartir dans ce monde, dans cette ambiance avec toute l'équipe de France, on est une famille, et retrouver cette ambiance de ski,
c'est ça qui vous porte aussi.
On se porte mutuellement, sans eux... on n'est rien.
Alors, dans cette équipe de France, vous avez pris la lumière là, cette saison. On a parlé de Kitzbühel, mais au total, 6 podiums, 4 victoires, en descente principalement. Et vous êtes passé dans une autre dimension. Vous avez conscience de ce nouveau statut sportif, médiatique, financier, j'imagine aussi?
Je m'en rends compte. C'est sûr que je ne peux pas dire que ma vie n'a pas changé.
Ouais.
Moi, mes valeurs n'ont pas changé. J'ai envie de rester qui je suis. Mais c'est certain que ma vie a changé et...
Il y a un peu plus de monde qui se retourne derrière vous, ouais.
Ouais, ouais, ça là-dessus aussi. Mais c'est super parce que ça reste vraiment que des bonnes énergies.
Vous parliez tout à l'heure de votre travail mental. Vous avez aussi, pendant cette saison, parlé de ce syndrome de l'imposteur qui longtemps vous a empêché d'évoluer. Pourquoi l'imposteur?
C'était surtout sur le regard des autres. J'avais un gros blocage à ce niveau-là sur qu'est-ce que les autres pensent de moi.
Ça vient d'où?
Sûrement des choses quand j'étais plus jeune qui sont restées gravées en moi sans que j'en ai vraiment conscience. Et
vous êtes né dans les Hautes-Alpes, dans un petit village, 500 habitants, pas à Tignes, Chambéry, où il y a les grands clubs de ski alpin. Est-ce que ça peut venir de là? Vous avez dû travailler et prouver que vous aussi, vous étiez...
Ouais, en ayant peut-être toujours un peu cette impression, je viens d'un petit village, une petite station, et je regardais peut-être les grosses stations comme c'est inaccessible, moi je pourrais pas être comme eux. Et là, peut-être que ça vient de là, ouais, il y a pas mal de choses. Je suis toujours en train de découvrir tout ça, mais en tout cas, j'ai réussi à lâcher, en me faisant aider, à lâcher certains blocages. Et cette année, voilà, j'ai complètement skié libéré.
Et ça a commencé en décembre. Et puis, cette victoire à Bormio, vous avez senti qu'à ce moment-là, le regard des autres avait changé. Et donc, vous avez changé.
Oui, c'est exactement ça. Ça a attaqué aux États-Unis en novembre, ce déclic. Mais à Bormio, quand j'ai gagné pour la première fois, c'est qu'avant cette victoire, mon regard sur moi-même déjà changé. Je me suis vu différemment. Et après, j'ai exprimé quelque chose de différent, enfin... Vraiment ce que j'avais au fond de moi, et là, le regard des autres a changé aussi. Et être conscient de tout ça, voilà, ça c'est chouette. Et c'est ce que je vais retenir, c'est l'aventure humaine qui est derrière tout ça.
Ouais, ça fait des étincelles ensuite sur la piste.
Ouais.
Vous auriez pu, Cyprien, remporter cette année le Petit Globe de la descente devant le Suisse Marco Odermatt, votre rival et, je le souligne, votre ami. Mais vous avez été battu sans combattre. Descente annulée dimanche dernier. Vous avez dit ne pas avoir de regrets?
Oui, non, aucun regret.
Mais après, vous terminez deuxième.
Mais je termine deuxième. C'est sûr qu'on aurait voulu une dernière bataille. Lui me l'a dit, moi au final, bien sûr que je regrette que cette course n'ait pas eu lieu, mais après les conditions n'étaient vraiment pas réunies. Donc c'est là que je dis, voilà, il n'y a pas de...
Sécurité avant tout.
Sécurité avant tout, il n'y a pas à discuter, c'était impossible ce jour-là.
Mais quand vous l'avez vu avec ce petit globe dans la main, vous vous êtes pas dit, ah la Marseillaise, elle aurait pu être pour moi, et le petit globe aussi.
Si, à ce moment-là, j'ai fait, ah ouais, quand même.
Alors une descente annulée, un peu de frustration de votre côté, finalement la saison elle a fini comme elle a commencé avec cette annulation à cause des conditions météo. Alors tout au long de la saison ça a été du vent, trop de neige, pas assez de neige, 16 courses annulées, une sur 5 sur tous les massifs, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. Vous qui avez grandi dans les Hautes-Alpes, est-ce que vous avez vu la différence?
Après... Tout au long de la saison, on a souvent des annulations. La météo, on ne la gère pas. Donc...
Alors, il y en a quand même 7 de plus que l'année dernière, qui était déjà une saison record.
Oui, après, c'est sûr que j'ai vu, tout au long de ma carrière, l'évolution, sur les glaciers notamment. Mm. Il y a beaucoup moins de neige. Ouais, on a vu les rochers. Là où on s'entraînait quand on était petit, il n'y avait pas de rochers. Maintenant, le rocher, il fait 20 mètres, quoi.
Et ça, ça vous inquiète de voir le milieu dans lequel vous êtes né et vous avez grandi disparaître sous vos yeux?
Ouais, bien sûr, bien sûr. Se dire qu'on fait partie des dernières générations à pouvoir profiter de ce sport, c'est... Ouais.
Alexis Pinturo parle du ski alpin en voie d'extinction. Vous le rejoignez?
Si ça continue comme ça aussi vite, oui, c'est un fait. Hein.
À quoi vous pensez quand vous imaginez les jeunes qui aujourd'hui ont 12-13 ans et qui sont dans les clubs de ski pour être le futur Cyprien Sarrazin dans 15 ans? Est-ce que vous y pensez justement à ces jeunes-là? Et en se disant que peut-être pour eux, le ski ne sera plus le même et les courses ne seront plus les mêmes.
J'espère que ce sera toujours pareil pour eux. Ce serait chouette, parce que je skie pour donner envie aux personnes de faire ce sport qui est magnifique. Et si je peux les motiver à vivre ces moments sur les skis, ça peut être top. Et tout en prenant conscience qu'il va falloir qu'on trouve des solutions pour continuer à le pratiquer.
Mais vous ne les avez pas, ces solutions?
Bref, on ne peut pas être skieur et en même temps décisionnaire de tout ça.
Cyprien Sarrazin, vous restez avec nous parce qu'on aura en ligne une autre championne, la française la plus titrée aux Jeux olympiques et paralympiques confondus, la skieuse Marie Bochet qui raccroche les skis. Mais on recharge les batteries d'abord, c'est le retour de Gossip, Real Power.
The corner standing still. In a moment, anything could happen. Do you feel what I feel?
Do you feel what I feel?
I want real power. Give me something real. Real power. Do you feel what I feel? And always will. Rhythm in my blood, my heart is pounding. Do you feel what I feel?
Do you feel what I feel?
People in the streets are getting rowdy. Come here to make peace, but just to kill. Feeling overcrowded, but I like it. Do you feel what? Thank you.
C'était Gossip, Real Power sur Inter. La sensation de la saison, Cyprien Sarrazin, virtuose de la descente de ski alpin, est mon invité. Mais pour le moment, on redescend au niveau de la mer, carte postale barcelonaise ce midi, puisque c'est ici, en bout de Méditerranée, que sera donné cet été le départ de la 37e édition de la Coupe de l'América, le plus vieux trophée sportif du monde créé en 1851. Alors, la Nouvelle-Zélande va défendre son titre cette année face à 5 challengers, et pour la première fois depuis 7 ans, il y aura un bateau français. En attendant sa mise à l'eau, l'équipe de France a pris ses quartiers donc à Barcelone, devant les yeux et le micro de Jérôme Val.
Les engins de chantier s'activent encore, des ouvriers sont en train de monter l'énorme hangar qui accueillera bientôt le bateau aux couleurs de la France. Il va sortir de son chantier à Vannes, en Bretagne Sud, la semaine prochaine.
C'est le plus gros bâtiment du site, le plus haut. On a une tente qui fait 22 mètres de large par 45 mètres de long et quasiment 11 mètres de hauteur sous plafond pour pouvoir rentrer le bateau.
Louis Viat est le responsable des opérations pour le défi français Orient Express Racing Team.
On a 12 containers et dans ces 12 containers, ce sont que des ateliers. Donc on a tous les différents départements de l'équipe qui sont dans ces containers-là. Donc on a l'électronique, de l'hydraulique, de la mécatronique. Il y aura de l'activité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dès qu'on va recevoir le bateau ici.
Dans la Coupe de l'América, chaque équipe a sa propre base. La France a hérité d'un espace de 5000 mètres carrés sur le port de commerce, loin des regards et de l'agitation qui secoue le cœur de Barcelone. Juste au-dessus de nous, le pont de la Porte de l'Europe qui mène au quai où s'amarrent les gigantesques bateaux de croisière. Un petit village dans la grande ville. On y trouve des containers pour y entreposer les matériels techniques, des bureaux, des espaces de réception, une salle de musculation et un réfectoire pour nourrir la petite centaine de personnes de l'équipe française. Derrière les fourneaux, Thibaut Viat.
J'ai une cuisine aménagée dans un conteneur. Je suis assez bien équipé. Pas mal. Grand four, les grands frigos, de l'espace pour tout, de quoi tout laver. Je travaille en relation avec le coach sportif qui est bien calé en nutrition parce qu'il y a pas mal de marins qui doivent perdre du poids, d'autres en gagner. Et puis il faut quand même faire plaisir au reste de l'équipe avec des gâteaux et des choses qui donnent le sourire à des gens qui ont un rythme assez effréné.
Les Français ont été les derniers à installer leur quartier à Barcelone. Ils sont arrivés cet été quand par exemple l'équipe suisse d'Alinghi est déjà là depuis presque 2 ans. Beaucoup ont débarqué avec leur famille, comme Kevin Péponnet, l'un des 2 barreurs du bateau tricolore.
Je vois pas comment on peut faire ça à distance, loin de sa famille, c'est compliqué. Heureusement que j'ai ma compagne à mes côtés, j'ai mon fils qui est présent parce que je les verrai pas souvent sinon. C'est un équilibre aussi familial, puis ils sont heureux d'être là. Puis Barcelone, c'est quand même une ville incroyable et il faut en profiter. Ouais.
Monter un tel projet a un coût, la base à équiper, une écurie avec beaucoup de personnel, des mois et des mois de préparation. Aucun chiffre global n'est dévoilé, mais pour Bruno Dubois, le patron sportif, jamais la France n'a eu autant de moyens.
Une base comme on a ici, ça va nous revenir au total à quoi, à peu près 1,5 million. Il y a d'autres bases, là, ça leur a coûté 6 à 7 millions pour les faire. Donc si on arrive à être pragmatique comme ça dans chaque endroit, ça sera très bien. Et l'argent, on le dépense où c'est vraiment, vraiment nécessaire. Dans le bateau, dans la technique, dans les gens. Mais c'est sûr qu'on a un budget qui est probablement moitié de ce que certaines grosses équipes ont, quoi.
Comme les Suisses ou les Américains, mais la France espère bien tirer son épingle du jeu fin août pour le début officiel des régates de cette 37e édition.
L'Esprit Sport. Clara Lecoq-Réal sur France Inter.
Ils vont plus vite qu'un navire lancé à pleine vitesse. Cyprien Sarrazin, vous êtes toujours là, fin de la saison de ski alpin. Et j'accueille Marie Baucher, bonjour.
Bonjour.
Skieuse multimédaillée, Marie, 8 fois championne paralympique. On vous connaît bien puisque vous nous accompagnez régulièrement à l'antenne, sur les antennes de Radio France, sur les compétitions. Et je crois, Marie, que vous vous connaissez avec Cyprien.
Oui, on se connaît, on a été au lycée ensemble, on est de la même génération, de la même année. Donc on a passé quelques années à Albertville ensemble.
Et les Alpes sont petites.
Exact.
Ouais, Cyprien.
Tout à fait.
Vous suivez tous dans l'équipe de France, que ce soit olympique, paralympique, les années durant?
Bien sûr, en plus on se croise souvent grâce à l'armée, ouais, qui nous soutient tous les deux et on fait partie de cette équipe de France, cette armée de champions, qui est une belle famille et ça nous permet d'échanger et de garder un contact amical.
Bon alors Marie, on vous passe un coup de fil aujourd'hui parce que vous êtes chez vous en Haute-Savoie et vous avez annoncé cette semaine que vous rangiez votre couronne et vos skis fin de carrière Et quelle carrière ! 8 titres paralympiques, vous êtes l'athlète française la plus titrée, Jeux Olympiques et Paralympiques confondus. Au hasard, Marie, voici les Jeux de Pyeongchang, c'était le 10 mars 2018. Écoutez.
Marie Bochet qui va s'élancer avec le dossard numéro 2.
Allez Marie.
Ouais, c'est bien ce qu'elle est en train de faire. Regardez tout de suite la recherche de vitesse, le bon travail sur le pied extérieur. Marie Bochet qui est à l'attaque, elle a remporté le titre. Allez, la skieuse d'Albertville qui va en terminer maintenant avec le temps référence. 1:30:30, le meilleur temps. Marie Bochet, championne paralympique de descente.
Championne de descente, de super G, slalom géant et slalom. Cette année-là, 8 médailles au total pendant les Jeux, 22 en championnat du monde. Et donc on l'imagine, Marie Bochet, pour vous, c'est beaucoup d'émotion de tourner cette page.
Oui, c'est sûr que voilà, c'était 15 années de ma vie, donc moitié de ma vie.
Et vous avez 30 ans.
Oui, voilà, exactement. Et c'est vrai que c'est quitter aussi un environnement dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai beaucoup appris et en fait que je connais par cœur. Et c'est tomber dans un nouveau monde. Et en même temps, je suis hyper sereine avec cette décision parce que je crois que j'ai vraiment mené ce que j'avais à mener dans ma carrière. J'ai profité de chaque instant et là, j'ai une vraie envie de découvrir l'après, d'avoir du temps pour faire d'autres choses, avoir d'autres projets. Donc c'était beaucoup d'émotions. C'est la semaine dernière sur les finales, mais aussi plus de la nostalgie que vraiment de la tristesse et vraiment de l'impatience de passer à l'après aussi. Je pense que voilà, j'ai vécu ce que j'avais à vivre dans cette carrière.
Et l'impression de sauter dans le grand bain, vous le disiez, 15 ans d'une vie, la moitié, c'était les derniers réveils, les derniers départs, le dernier slalom, la dernière descente.
Oui, il y a eu beaucoup de dernières fois la semaine dernière. Et malheureusement, la dernière course a été annulée. Mais finalement, c'était une émotion assez contrastée entre l'envie vraiment de refaire un super G, de reprendre un dernier départ. Et finalement, tellement prise d'émotion aussi que je ne savais pas trop ce qui allait se passer sur cette piste, sur cette course-là. Il y avait encore des enjeux parce qu'il y avait le globe du super G, il y avait le globe du général. Donc, c'était une journée qui était très intense. Mais voilà, ça a été une dernière journée qui a été un peu particulière et pas forcément dans les plans initiaux, mais finalement une journée de partage surtout avec l'équipe et puis avec le reste du circuit qui m'a bien gâtée aussi d'émotions et de témoignages. Et voilà, ça a été une belle dernière journée.
Ouais, parce qu'on le rappelle, hein, course annulée comme pour Cyprien finalement en Autriche. Vous étiez en Italie, Marie. Il y a eu de la frustration quand même de ne pas skier une dernière fois.
Oui, il y a forcément eu un peu de frustration parce que j'avais justement envie de prendre ce dernier départ en disant que c'était le dernier. Mais finalement, la veille, on avait eu le dernier géant, il y avait eu le dernier slalom. Donc voilà, et puis l'histoire, elle devait s'écrire comme ça, sans doute. J'ai aussi pu relâcher et puis vraiment le moment où ils nous ont annoncé que la course était annulée, j'ai regardé les garçons de l'équipe et je leur ai dit mais en fait c'était fini, ça y est. Enfin, c'était assez étrange comme moment, mais voilà, c'était certainement comme ça que ça devait s'écrire et puis on a fait quand même une dernière piste.
Vous avez fait la fête
ensemble.
Quand même. Ouais.
Oui, on a quand même fêté. Alors on prenait la route l'après-midi, donc
avec modération
dans le Beaufortin. On fera la fête à la maison plutôt et on a encore les championnats de France cette semaine, donc voilà, je finis quand même correctement la saison et je prendrai le temps de fêter tout ça dignement un petit peu plus tard dans le Beaufortin.
Bon, je vous pose la même question qu'à Cyprien, Marie, puisque on y revient, mais les conditions météo changeantes ont fait annuler la course pour vous en Italie. C'est une problématique qui vous touche, ces températures qui font le yo-yo.
Oui, on a eu un hiver qui a été très très particulier, très contrasté, avec des conditions très complexes. On a eu pas mal d'annulations de courses aussi, comme chez les valides. C'est vrai que du coup, ça devient de plus en plus, et encore plus que ça l'était déjà, un sport d'adaptation. Et c'est sûr que là, moi, sur ces 15 ans, j'ai quand même vu les choses vraiment évoluer. Et voilà, il faut qu'on se réinvente, il faut que le circuit se réinvente, et puis qu'on trouve des solutions et qu'on pratique peut-être un petit peu différemment pour pouvoir s'adapter plus facilement et puis
solution
pouvoir continuer à pratiquer. Il y a des questions de calendrier, je pense, principalement, de calendrier, d'enchaînement aussi, parce que, bon, on l'a vu aussi chez les garçons, mais il y a eu des reprises de course. Voilà, on annule, on reprend, on se pose pas trop la question de savoir comment se font les enchaînements derrière pour les athlètes. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre en compte qu'aujourd'hui, le planning qui est annoncé en début d'hiver est pas forcément celui qui va être vraiment fait. Et donc, avoir aussi une certaine flexibilité dans le calendrier, pouvoir s'adapter au mieux et puis pouvoir aussi respecter un petit peu les conditions.
Et vous allez y réfléchir à l'avenir, Marie, puisque vous avez porté et vous portez la candidature des Alpes pour les JO de 2030, dans 6 ans.
Oui, j'ai été porte-parole de la voix des athlètes aux côtés de Martin Fourcade quand on a présenté le dossier au CIO fin novembre. Et c'est certain que voilà, c'est des étapes qui vont être importantes dans la réécriture du schéma de ces événements-là. Moi, j'ai grandi grâce aux Jeux paralympiques, aux Jeux olympiques, donc j'ai forcément une vraie croyance dans les valeurs de ce qu'on peut transmettre dans ces moments-là, et donc l'envie que ces événements continuent, et mais avec forcément une nécessaire réinvention, je pense. Donc voilà, c'est sûr que moi j'aurais aussi envie de partager un petit peu mon expérience, et puis peut-être voilà, offrir à la France la possibilité d'être la nation qui impulse une nouvelle énergie et une nouvelle dynamique dans ces événements sportifs qui sont, je pense, importants, que ce soit pour les athlètes ou pour une société.
Cyprien, les Alpes 2030, vous aurez 36 ans, c'est dans votre viseur ?
Ouais, je me mets pas de limite.
On pense à Johan Claret, médaillé d'argent à 41 ans, c'est possible ?
Tout est possible.
Ouais.
On verra comment j'évolue et surtout physiquement, voilà, ça va être... le principal enjeu, mais moi j'en ai l'envie en tout cas, maintenant qu'on commence à m'en parler de plus en plus, c'est dans ma tête, et ouais, j'ai envie de vous dire que je vais tout faire pour
rien. On vous y verra. La fin de carrière, on entendait Marie Bochet en parler, elle s'y était préparée, elle est ok avec ça, est-ce que vous y pensez à 29 ans ?
J'y ai pensé, ouais, parce que on sait jamais ce qui peut arriver dans le ski alpin, et à partir du moment où on est assez clair avec ces idées-là, qu'on est conscient que tout peut s'arrêter, que ce soit pour une blessure ou que ce soit n'importe quoi, si on commence juste un peu à se poser la question, c'est un moyen d'enlever ce stress-là. Moi, je suis en train de me la poser la question. J'ai encore pas trouvé la réponse.
Vous avez mis combien de temps, Marie, pour la prendre, cette décision ?
Longtemps. C'est pas une décision qu'on prend facilement. Je pense que voilà, mais c'est important en fait de se la poser quand même. Je pense que c'est important de toujours remettre un peu dans la balance les pour et les contre parce que c'est quand même des vies qui sont exigeantes. Et du coup, si à un moment donné le contre l'emporte sur le pour, ben on a moins de motivation, on n'a pas ce qui nous permet de faire certains choix. Et donc moi, je crois que j'ai commencé vraiment à y réfléchir en 2018 après Pyeongchang où les jeux d'après n'étaient pas une évidence, à l'inverse de la sortie de Sochi, où vraiment je me projetais en Corée sans aucun souci. Là, les jeux de Pékin étaient beaucoup moins évidents dans mon esprit, et donc chaque saison, je me reposais la question, et je rebondis sur ce qu'a dit Cyprien. Moi, je crois que le moment où j'ai vraiment pris la décision, c'est le moment où je me suis fait opérer d'une hernie discale à 29 ans, et je me suis dit, je crois que c'est pas trop dans l'ordre des choses, et que je pense que je suis encore en bonne santé, mais j'ai pas envie de pousser non plus trop loin la machine, et j'ai envie quand même de pouvoir encore profiter du sport pendant quelques années. Et voilà, le sport de haut niveau a ses exigences qui font aussi que on s'use et que souvent c'est le corps qui dit stop avant la tête. Moi, ça a correspondu à peu près au même instant pour les deux. Donc voilà, ça,
ouais. Et il n'y avait pas la peur de quitter la lumière, être oublié?
Ouais, c'est sûr que ça c'est aussi quand on en a entre guillemets l'habitude. Je pense que Cyprien est en train d'y goûter aussi, mais c'est vrai que voilà, moi ça faisait quelques années que j'étais sous les projecteurs. Je pense qu'il y a aussi à un moment donné, on est des gens de la montagne, et moi j'ai toujours eu besoin aussi de couper avec ça aussi. Et donc voilà, je sais que j'ai une vie aussi à côté qui est équilibrée avec des proches pour qui je suis pas juste une championne. Ça, je pense que c'est aussi très important d'avoir un environnement et un entourage protecteur sur ce plan-là. Ouais. Et donc voilà, moi je sais que je suis quelqu'un d'autre que l'athlète sous les projecteurs, et ça, je pense que voilà, ça fait aussi partie de la décision. Mais il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire différemment, et puis goûter aussi aux joies d'une vie peut-être un petit peu plus simple, avec des relations peut-être aussi plus sincères. Voilà, je sais pas, j'espère en tout cas.
Et alors ouais, vous avez porté la candidature des Alpes 2030, vous êtes aussi engagé, je crois, dans Paris 2024, dans le comité des athlètes. Vous allez davantage vous y investir jusqu'à l'été?
Oui, alors c'est pas simple. Il y a actuellement une commission des athlètes qui est en cours. Donc voilà, c'est toujours un peu compliqué parce que moi j'avais encore ma carrière à terminer. Donc c'est sûr que là j'ai du temps qui va se libérer. Donc ça va me permettre d'être aussi un petit peu plus présente sur les derniers mois avant les Jeux. Je vais être aussi présente aux Jeux normalement, je crois. Et voilà, il y a de beaux projets, mais c'est sûr que voilà, je parlais des Jeux olympiques et paralympiques. Alors forcément, nous, on est plus des athlètes d'hiver, mais les les valeurs sont communes sur les deux éditions et ça va être une fête gigantesque en France et forcément j'ai envie d'y prendre part et d'y investir un petit peu plus de temps et je pense que voilà le timing était bon aussi sur la décision de ma fin de carrière. Ça tombe l'année 2024 qui est une année exceptionnelle en France donc voilà, tout se coordonne plutôt bien.
Merci Marie Bauchet de nous avoir fait un coucou depuis la Savoie ce midi et évidemment on vous retrouvera sur les antennes de Radio France les prochains mois. On parlait des Jeux. Cyprien, vous restez avec nous. Sur Inter, on suit depuis 7 mois la préparation de Valentin Winato, qui lui est judoka. Il est aussi reporter. Il tente de se qualifier avec le Bénin. On l'avait laissé la semaine dernière, abattu par les blessures, ça vous connaissez. Ça va mieux aujourd'hui, épisode 26. Il relance la machine.
Toi, les Jeux Olympiques, c'est pas ton truc.
Si, j'aime bien, mais... comme c'est toi, c'est différent que si c'est pas toi.
Ça veut dire pourquoi c'est différent?
C'est mon petit-fils.
Ouais.
Ça me fait peur un peu.
Les amis, bonjour. Écoutez, je viens de passer 5 jours avec mes grands-parents, retour à Paris et retour dans un lieu hyper inédit. C'est faux? Chez le kiné. Waouh, hyper original. En même temps, je réfléchis, qui a besoin de deux coudes?
Ça va, Jules?
Ça va, et toi?
Bah écoute, on est reparti, avec un nouveau coude.
Tu pars pour le week-end de Pâques, hein?
Non, je vais juste faire du porte-à-porte.
Porte-à-porte?
Dans ma ville, pour la cagnotte Litchi. Mais c'est tout. Allez, go!
Go c'est direct?
Bon ouais. Oh, c'est bon.
Tu sens bien une congestion autour de
toi? Ouais, ouais.
Comme c'est qu'après, pour activer la régénération d'un tendon, t'as pas qu'à remplir le truc à faire. Hein. Surtout que si t'as fait derrière une infiltration, en fait, y'a rien à faire. Parce l'infiltration, ça empêche tout phénomène de...
Ah ouais?
Bah ouais.
Le week-end prochain, je vais reprendre avec le club sur une compétition, c'est les championnats de France par équipe. Mais comme on est dans moins de 80 et que moi, je suis vraiment pas à 100%, je pense pas combattre ou peut-être un combat pour me tester, mais pas plus. Et même globalement, je me sens moins bien. Je pense que vous l'avez entendu, j'ai perdu du poids. Je me sens lent, je me sens fatigué. Donc on va reprendre une bonne hygiène de vie. Et puis voilà, haut les cœurs, comme disent les jeunes.
Ouais, on fait quoi là?
Thomas Jiménez.
Ah, donc c'est vraiment Luc Léger?
Ouais.
Non, c'est pas marrant, Steph. Bon. Bon, attends, Thomas. C'est Thomas qui fait la science. C'est quoi la science aujourd'hui?
Petit Luc Léger ce matin.
Ça veut dire quoi? On fait quoi?
C'est un test pour déterminer la VMA.
VMA pour les auditeurs de France Inter, parce que nous, on s'y connaît pas, Thomas. C'est de l'endurance?
Ouais, c'est de l'endurance. En gros, c'est pour calculer après tes pourcentages d'efforts sur des séances de course.
Mais est-ce que c'est dur? C'est ça qu'on veut savoir.
Non, c'est pour finir la semaine en beauté.
C'est un menteur. Morgane, t'es en forme?
Oui, je suis en forme.
Morgane, elle passe à la radio.
Palier 12.
Ah, j'ai craqué. On a encore 4 en course. Ah, oh, j'ai les jambes lourdes.
Non, mais moi.
Pêche Mathilde Caval, hein. C'est Mathilde, moins de 52 kilos, qui a gagné. Elle est en forme, ça, Mathilde?
Ça va. J'ai combattu mercredi.
Elle est en train de décéder, a priori. Bon, bah écoutez, fin de semaine. Alors, je pense que je vous l'ai dit, quoi, 17 fois. Pas en forme, si on est d'accord. Mais le coude semble à peu près tenir. Mais bon, ça va mieux quand même, c'est cool. Je pense qu'on était vraiment au fond du seau. Et que là, on va remonter petit à petit. À la semaine prochaine, les copains.
Cyprien Sarrazin, les blessures, les coups de mou, vous avez connu hein, dans votre carrière, on en a longuement parlé. En vous relevant jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le mois dernier, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
Continuer.
Des vacances
de... Ouais, des bonnes vacances au mois de mai. En attendant, il y a encore 2-3 trucs à faire pour partir en vacances avec l'esprit libéré, le corps reposé.
Pour reprendre la saison, à quel moment, l'entraînement à quel moment?
Au mois de juin, on reprend directement la préparation physique qui va durer 3-4 mois, vraiment très intensive. Et ensuite, on remonte sur les skis septembre, octobre. Pour préparer la saison.
Donc aux États-Unis, au Chili,
en Amérique du Sud, ouais. Pour aller.
Il y a peu de créneaux pour s'entraîner.
Il y en a de
sur
ouais.
la descente, ouais.
Ah ouais, il y en a très peu. Je passe 40 minutes dans l'année à faire de la descente pure, sans parler du super G, du géant, mais En spécifique, c'est 40 minutes de descente que j'ai fait cette année. Donc c'est très très peu. Il faut s'appuyer sur d'autres choses. On ne peut pas s'appuyer que sur le ski pour être skieur alpin. Et là, tout l'inverse du décor n'est pas trop montré.
C'est quoi l'envers du décor?
Bah, des heures et des heures et des heures de passer dans les salles de muscu, à se préparer physiquement, à se préparer mentalement aussi, à toucher à tous les sports pour être le plus près possible.
VTT de vitesse, je crois.
VTT de descente, ouais.
Ouais, de descente, ouais.
Ouais, ouais, il y a plein de choses. Ça, c'est mon hobby, donc je le fais.
C'est votre truc, la vitesse.
C'est mon truc, l'adrénaline.
Merci beaucoup, Cyprien Sarrazin, d'être passé par le studio d'Inter ce dimanche. Merci à la direction des sports, au capitaine de cette émission, Alexandre Gilardi, avec Coyenne Guyenne à la réalisation, à la technique Corentin Rouchy, à la programmation musicale, évidemment, Jean-Baptiste Audibert.